De l'année dernière, avec Julian et Sandra, nous avons souhaité mettre en place un partenariat. Partenariat avec les e-virtuoses de Valenciennes, qui sont maintenant une institution française sur le Serious Game, qui se déroule début juin généralement, Julian. Et il nous paraissait très important avec Jean-François, donc c'est pour ça que tu peux rester, de faire effectivement le lien, tout simplement parce que il était hors de question de nous rendre propriétaires du jeu sérieux à Nice, quel que soit le domaine d'application, en particulier celui de la santé, et comme tout bon chercheur, on va dire, de faire référence finalement aux fondamentaux. Et donc l'idée a progressé, et surtout ce qui était intéressant, c'est finalement Sandra et Julian qui organisent, puisqu'en fait Sandra, qui se cache derrière son écran, est la commissaire des e-virtuoses, organise chaque année maintenant des e-awards. Et ces e-awards sont là pour, entre guillemets, fêter, honorer, récompenser, après un lourd processus de sélection, un éditeur, ou en l'occurrence l'éditeur au travers d'un jeu. Et il paraissait intéressant, non pas de refaire la même chose ici, ce qui est complètement illusoire, mais surtout de travailler peut-être sur la compréhension des critères de jugement, et ça, je crois que c'est un élément important qui peut nous faire progresser, parce que peut-être que les jeux en santé bénéficieraient de quelques items, vous en avez évoqué autour de la table tout à l'heure. Et puis la deuxième chose, c'est de rendre finalement SegaMed, dans le cadre du partenariat, eh bien l'occasion aussi pour le vainqueur donc des e-awards en santé d'être présent, de présenter son produit, non pas tant sur la superficie, mais comme je l'avais demandé Antoine, de travailler plutôt en profondeur, d'essayer de voir quelque part la genèse de ce produit et puis la façon dont, alors sans révéler des secrets de fabrique, que les choses se sont organisées peu à peu. Voilà, donc vous voyez donc cette deuxième édition qui est empreinte de beaucoup de nouveautés et qu'on mettra, je pense, encore à profit les années à venir. Voilà, donc je laisse la parole à Julian, puis à Antoine.
Merci beaucoup, Pascal. Donc effectivement, cette présentation s'effectue dans le cadre d'un partenariat entre SegaMed et les e-virtuoses. Donc en fait, quelle est l'idée? C'est tout simplement que il y ait un échange entre ces deux manifestations, tout simplement pour faire le point. C'est-à-dire que l'objectif que nous essayons de poursuivre, c'est l'évaluation du Serious Game. Quelle est la valeur ajoutée du Serious Game ou les valeurs ajoutées du Serious Game? Et parmi les différentes présentations que nous effectuons, manifestations que nous effectuons dans le cadre des e-virtuoses, donc nous avons un colloque scientifique, nous avons des workshops, c'est des tables où les gens s'échangent, essayent d'enrichir un petit peu leurs connaissances dans le domaine du serious game, mais aussi de la gamification, du serious gaming et d'autres objets connexes. Et enfin, nous avons les awards. Alors, qu'est-ce que c'est les awards? En fait, on récompense 5 types de produits différents, donc 3 dans la catégorie Serious Game, donc Serious Game Santé, évidemment, d'où cet échange avec SegaMed, Serious Game dédié à la communication, Serious Game dédié aussi à la formation, et après nous avons 2 autres produits qui sont moins connus, le Serious Gaming et la gamification. Alors qu'est-ce que c'est le Serious Gaming? C'est le fait de détourner des jeux vidéo qui, à l'origine, sont dédiés seulement au divertissement, au seul divertissement, pour en faire des usages autres. Donc ça peut être former, enseigner, soigner, etc. Et donc on a vu des exemples très très intéressants. Et puis enfin, dernière catégorie, donc la gamification. Donc la gamification, c'est le fait de convoquer des approches du game design dans des contextes ou pour des objets qui en sont dépourvus à l'origine. Par exemple, donc vous avez dans le tableau de bord de certaines voitures désormais une petite fleur avec des pétales qui vont pousser si vous avez une conduite qui est respectueuse de l'environnement, c'est-à-dire si vous écrasez pas le champignon. Et si par contre vous êtes un petit peu agressif, ben, les pétales vont disparaître et vous aurez perdu. Dans d'autres voitures, vous avez en fonction de la consommation d'essence, la possibilité de gagner une coupe si vous êtes plutôt économe, et vous avez la possibilité aussi de concourir avec d'autres conducteurs. Voilà, donc tout ça, ce sont des process de gamification, c'est-à-dire qu'on a introduit le jeu dans la conduite automobile, par exemple. Et on trouve ça dans d'autres domaines, y compris des processus de soins. Voilà. Donc, dans le cadre de ces e-virtuoses, les awards ont aussi un objectif économique. Alors, à quoi ça sert de faire des awards? Donc, évidemment, d'identifier les acteurs qui sont bons, c'est-à-dire ceux qui produisent de belles choses, qui nous semblent pleins de promesses, d'avenir, de potentiel, qui méritent d'être reconnus et partagés. Mais aussi, il y a une dimension, on va dire, recherche, qui est tout simplement de pouvoir faire de la veille, c'est-à-dire que nous, ça nous permet d'identifier, d'embrasser un petit peu tout ce qui existe. Et d'année en année, on voit un nombre croissant de produits apparaître sur le marché. Et rien qu'entre l'année 2012 et 2013, nous avons vu plus de 66% de candidatures supplémentaires pour participer aux awards. Donc, ce qui est pour nous un chiffre assez significatif. Et enfin, dernier point, il y a une dimension économique. C'est-à-dire que nous, à travers ces e-virtuoses et à travers ces awards, on veut contribuer à l'appropriation de ces objets. C'est-à-dire que les commanditaires potentiels, les prescripteurs potentiels, les utilisateurs potentiels puissent connaître ces objets. Et donc, le fait de donner un coup de projecteur médiatique va permettre, en fait, selon nous, de contribuer à cette appropriation. Alors, plutôt que de continuer à parler pendant des heures et des heures, je vais vous mettre quelques images que Sandra nous a présentées, Sandra nous a préparées. Et ensuite, s'il y a des questions, j'y répondrai avant de donner la parole à Antoine. Voilà. Ce sont les nominés, les gagnants de cette session 2013. En catégorie formation.
Excellent, a lot of great thought, a lot of thought into the UI and the technology and use of the hardware, you know, the pads or phones, etc. So overall very impressive.
C'est la catégorie communication.
La réalisation d'un événement où on a l'opportunité d'échanger des idées avec d'autres spécialistes, et aussi pour les créateurs de montrer ce qu'ils ont produit, c'est essentiel pour la création de nouvelles mentalités et aussi parce que le jeu vidéo sont aujourd'hui une source très importante d'innovation.
Donc le Serious Game Santé avec Antoine qui sort de l'écran, n'est-ce pas?
I would say that in the past 2 years, the difference between the first conference and this conference is really the quality of the games and the amount of people that are demonstrating their work. I got to be on one of the judging panels for healthcare and got to judge 10 or 12 games, and it was really hard to pick a winner, and it was just the quality.
Catégorie gamification, serious gaming, pardon.
The serious gaming category is very difficult because they used well-designed existing commercial games. And they thought, okay, how can we use this? We're not going to concentrate on making a game. That's what the specialists do. But they took out parts of the game and used that for their own purposes, either for a health thing or for training students mathematics.
Secrets du Musée.
Là, vous avez Chris Crawford, qui était le président de ce jury. Et la dernière catégorie, donc, qui est gamification. Apporter le jeu ici dans les musées.
I was surprised at the quality and even more by the quantity of submissions. I had, in the past, France has been a little behind Germany, America, Japan in terms of producing video games. And so I expected something similar with serious games, but that's not at all the case. France is producing a lot more serious games than I would expect.
Voilà, donc vous avez une présentation. Je vais demander à Sandra peut-être de venir nous rejoindre, si elle ne s'est pas cachée. Oui, viens, parce que c'est la marraine donc des e-virtuoses. Awards, elle s'occupe de tout. Un petit mot ?
Bah écoutez, bonjour à tous. Et bah écoutez, quoi dire de plus, sauf que c'est toujours un réel plaisir d'organiser les e-virtuoses en compagnie de Julien. Voilà, donc on les organise ensemble, les e-virtuoses. Et puis en s'appuyant sur notre réseau, Segamed, Laurent est dans la salle également. Je vois Aurore Guillaume aussi, Pierre-Marco Rosa qui était là. Donc voilà, c'est toujours un plaisir et j'espère qu'on aura l'occasion, à l'occasion peut-être d'autres événements que le PRL, le Play Research Lab, le labo auquel on est rattaché avec Julien. J'espère que nous aurons l'occasion de vous voir, à l'occasion peut-être d'autres colloques scientifiques que nous pourrions organiser ou d'autres opérations. Voilà.
Merci beaucoup, Sandra. Alors, on va donner la parole à Antoine, qui a été donc le grand gagnant de cette promotion 2013 dans la catégorie Serious Game Santé.
Okay. Donc déjà, merci Julien pour l'organisation des e-virtuoses et pour l'award. Et merci Pascal Stassini pour nous avoir invités ici à Segamed. Donc, je vais vous parler un petit peu d'Hammer & Planks. Alors, les slides sont en anglais, mais finalement, je vais faire la présentation en français, vu qu'apparemment tout le monde... a fait sa présentation en français. Pour information, donc NaturalPad, la société qui développe Hammer & Planks, ça fait à peu près 2 ans qu'on est sur le projet en incubation et ça va faire 1 mois maintenant qu'on existe vraiment, qu'on est une société à part entière. Je suis le PDG de NaturalPad, je suis docteur en informatique et je vais vous parler donc d'Hammer & Planks, qui est un jeu thérapeutique basé sur le mouvement. Donc on va commencer par raconter une histoire utilisateur. Donc l'idée c'est que le jeu Hammer & Planks va servir en fait dans la rééducation de personnes qui ont eu un accident vasculaire cérébral et qui vont avoir besoin de retravailler leur sens de l'équilibre. Donc c'est Monsieur Smith qui a eu un AVC et qui a besoin de travailler son équilibre essentiellement sur le côté droit. Donc Monsieur Smith est hémiplégique. Anaïs, donc qui est une ergothérapeute, va aider Monsieur Smith à récupérer ses facultés d'équilibre, et elle va lui proposer, plutôt que de faire un exercice classique de rééducation, d'utiliser un jeu, donc d'avoir quelque chose de plus ludique qu'un exercice classique de rééducation. Donc là, en l'occurrence, elle va lui proposer Hammer and Planks sur un ordinateur avec un Kinect. En live, donc pendant l'exercice, elle va pouvoir adapter le jeu en fonction des capacités de Monsieur Smith. Donc faire en sorte qu'il soit plus encouragé à aller sur le côté droit, que ça soit plus ou moins rapide, que ça soit plus ou moins difficile pour lui. À la fin du jeu, elle va pouvoir vérifier toutes les données de la partie et analyser ces données, regarder un petit peu si Monsieur Smith a passé une bonne séance, s'il a réussi ses objectifs, et éventuellement regarder s'il a progressé entre différentes séances. Donc du coup, Hammer and Planks, c'est un jeu basé sur le mouvement, puisqu'on va suivre les mouvements du corps. On l'a conçu à la base avec Anaïs Ivora, qui est ergothérapeute, qui était étudiante au tout début du projet encore à l'Institut d'ergothérapie de Créteil. Son besoin, c'était vraiment de faire de la rééducation de patients hémiplégiques. Et on s'est accordé sur l'idée de faire un jeu de type vertical shooter. Donc, je ne sais pas si vous voyez quel genre de jeu c'est. Où on a un vaisseau spatial, en règle générale, qui se déplace de droite à gauche et qui tire sur des ennemis qui arrivent en haut, qui défilent dans l'écran. Donc on a repris ce type de gameplay pour là avoir un contrôle sur, on va suivre le centre de masse du joueur et le déplacer déplacer du coup son vaisseau de droite à gauche. Notre méthode de développement, ça a été de faire de la conception participative, donc de passer beaucoup de temps avec Anaïs pour comprendre son besoin, comment elle faisait déjà une rééducation et comment on pouvait l'adapter avec un jeu. On a produit une vingtaine de documents, donc ça nous a permis d'avoir en fait la Bible dans le jeu vidéo, donc le GDD, comme on dit, le Game Design Document. Et après, on utilise une méthode agile, ce qui est assez classique aujourd'hui dans le développement. Donc on fait des itérations fréquentes et on fait des tests régulièrement avec le soignant, avec les patients. Donc avec Anaïs, on est arrivé à la fin à avoir une version qu'on a testée auprès d'une dizaine de patients uniquement dans le cadre de son diplôme d'ergothérapeute. Donc une dizaine de patients de plus de 50 ans, et on a eu 9 patients sur les 10 qui étaient contents d'avoir utilisé cette forme-là d'exercice plutôt qu'un exercice classique. Donc la première version, on l'avait présentée au Montpellier In Game, donc c'est là où Julien nous avait repéré. Ça a été à la fin d'un premier cycle de développement de 2 mois en fait. Donc on est arrivé sur une première version jouable qui était utilisée plutôt sur la Weboard au début. Et c'est cette version-là qu'Anaïs a testée auprès de ses patients. Après, on a retravaillé notre version, donc c'est la version qu'on a présentée au eVirtuose et sur laquelle pour laquelle on a eu le Word en santé. Donc là, on a surtout insisté sur tout ce qui va être avoir en fait des composantes, des briques qui nous permettent de modifier la difficulté du jeu en direct. Donc si vous passez sur le stand, on vous fera une démonstration. Donc avec la tablette, le soignant va pouvoir adapter la difficulté du jeu, modifier la difficulté du jeu pendant la partie de son patient. Et on a commencé aussi à travailler sur l'intégration d'autres périphériques. Donc on était sur la Weboard au tout début, on est très rapidement passé sur Weboard, on peut switcher entre la Weboard ou le Kinect, on peut aussi passer sur un pad classique. On travaille sur d'autres périphériques, j'y viens un petit peu après. Et donc ça, c'est une version qu'on a présentée plusieurs fois au CHU de Nîmes et la Péroni, qui sont des CHU qui nous accompagnent depuis le début, avec lesquels on est en train de mettre en place un partenariat pour essayer d'avoir des tests sur un plus grand nombre. Et adapté aussi à d'autres thérapies. Et aujourd'hui, donc, on en a la version 3, donc c'est celle que vous pouvez voir ici, au stand. Un des retours qu'on a eu, en fait, c'est qu'on a fait un jeu qui est très coloré, on a cherché à ce qu'il soit très fun, il y a beaucoup de détails, il y a beaucoup d'informations. Et finalement, quand on a un patient hémiplégique, souvent, il a aussi des problèmes de cognition. Et donc si on a beaucoup d'éléments qui bougent à l'écran, même si c'est cosmétique, si c'est joli, ça va créer des problèmes de cognition, enfin une surcharge cognitive chez le patient. Donc on a dû travailler pour que, en plus d'avoir les objectifs et la difficulté du jeu, on ait des éléments cosmétiques qui soient paramétrables. Donc là, dans l'idée, vous avez en haut un rendu où on a l'effet de la mer, on a un petit bateau, on a beaucoup de choses qui vont s'afficher. Et tout ça, le thérapeute va pouvoir le supprimer en fait et baisser la qualité graphique et visuel du jeu, augmenter la taille des modèles, ce genre d'informations, rajouter des halos verts autour de ce qu'il faut ramasser, par exemple, pour simplifier la prise en main du jeu, au moins sur les premières parties, supprimer cette surcharge cognitive. Donc c'est un jeu, comme on utilise une technologie qui s'appelle Unity 3D, je pense que vous êtes à peu près tous familiers avec cette technologie-là, on peut facilement le porter sur plusieurs dispositifs, donc aussi bien les tablettes que l'ordinateur que les consoles. Donc c'est un jeu qui est portable, on peut mettre sur plusieurs plateformes. Et nous, on a aussi travaillé à avoir notre propre plugin, en fait, un plugin propriétaire sur Unity qui nous permet de simplement brancher n'importe quel périphérique. Donc on a beaucoup travaillé avec tout ce qui est les gamepads classiques, la souris et le clavier. Donc on pourrait en faire un jeu grand public sans le côté contrôle par le mouvement. Et après, on a bien sûr intégré tout ce qui va être contrôle sur le mouvement. Donc la WiiBoard et le Kinect dans un premier temps. Ça marche aussi sur du tactile, comme je disais. Et on est en train d'intégrer le Leap Motion qu'on a reçu il y a un mois. On a aussi les manettes du PS Move qui sont dans le pipe, les manettes de la Wii. Bon, on travaille avec d'autres périphériques. C'est un petit peu une des priorités chez nous d'être sur tout ce qui est périphérique d'interaction. Donc, vous allez voir bientôt des choses sortir avec l'Oculus Rift aussi. Enfin, on travaille sur tous les dispositifs d'interaction. Voilà. L'intérêt d'avoir en fait tous ces dispositifs, c'est surtout qu'on va pouvoir facilement adapter le jeu pour plusieurs thérapies, pour plusieurs patients. Après notre plateforme web, l'un des objectifs c'est que ça soit aussi une plateforme sociale, donc elle va permettre aux thérapeutes de gérer tous ces patients et d'avoir le suivi des parties, donc des différentes séances de rééducation. Ça permet aussi d'avoir donc l'analyse et tout l'ajustement en direct, toutes les modifications directes de la difficulté du jeu. Donc pour conclure là-dessus, on fait des jeux sérieux, mais on essaye de faire en sorte qu'ils soient pas si sérieux que ça. Donc on teste aussi nos jeux auprès de joueurs qui sont a priori pas en rééducation. On a développé l'histoire de notre pirate John qui en fait est le roi des mers. Donc c'est un pirate qui va couler d'autres bateaux, récupérer des trésors et s'enrichir. Sauf qu'un jour il a une avarie qui est peu fréquente, il prend une météorite sur son bateau. Mais en fait toute l'histoire dans Hammer & Plank c'est que vous allez commencer avec un bateau de briques et de broc. Vous allez l'améliorer au fur et à mesure du jeu, donc entre les différents niveaux, vous allez pouvoir faire évoluer votre bateau. Et à la fin, vous allez même pouvoir aller dans l'espace et essayer de comprendre d'où vient cette météorite. Donc même si c'est un jeu sérieux, on a développé le côté background, qui est une histoire et qu'on ait du coup un suivi entre les différents niveaux. Bon, il y a encore des choses à implémenter hein, quand même sur Hammer & Planks, mais c'est vraiment ça l'objectif d'avoir ce background-là. Donc c'est un jeu qu'on a testé du coup au MIG aussi auprès de... Donc le MIG c'est un salon un peu particulier parce qu'on a une partie professionnelle, donc c'est là où on avait croisé Juliane, et après on a une partie qui est ouverte au grand public. Donc nous on a switché entre les deux parties du salon. On a vraiment présenté ce jeu avec son intérêt thérapeutique sur la partie professionnelle, donc sur Kinect et WiiBoard. Et après on a branché des manettes, on a installé notre banc devant l'écran, on a mis plusieurs écrans, on a fait des compétitions entre les joueurs. Pardon. On a fait des compétitions entre les joueurs, on a eu plus de 700 parties jouées sur les deux jours, et on a beaucoup de joueurs qui sont revenus battre leur propre score. Donc c'était, pour nous, ça a vraiment validé le fait que ce jeu était pas si sérieux que ça, et que, donc on a le côté fun. Et ce fun, c'est ce qui est primordial en fait dans l'idée de faire un serious game pour la santé, parce que c'est ça qui va créer un levier de motivation, qui va faire en sorte que c'est autre chose qu'un exercice de rééducation. Voilà, et toujours pour aller plus vers ce fun et ce levier de motivation, on a conscience aussi que la génération plus de 50 ans, on dira, c'est pas des habitués du jeu a priori, donc c'est pas des gens qui vont aller facilement vers le jeu vidéo, sauf si on a un levier social. Si on a la famille, si on a les proches qui encouragent la personne à jouer, là on va avoir plus d'intérêt. En fait, l'exercice c'est plus un isolement, c'est plus l'exercice physique qu'on fait tout seul. On est dans du jeu avec la famille, un petit peu le courant de la Wii, hein. Donc on est dans le jeu en famille. Et du coup, moi j'ai expérimenté aussi à domicile, mais moi sur mon grand-père, pas sur mes enfants, j'en ai pas encore. Et du coup, ça marche plutôt bien, enfin, en tout cas lui, ça lui a plutôt plu. Et on est sur des gameplays asymétriques, donc on va avoir une personne qui fait son exercice de rééducation en jouant, et les proches qui peuvent jouer avec un gameplay classique, avec une manette classique, un gamepad classique, ou un autre périphérique. Donc ça, c'est vraiment un levier de motivation qui, pour nous, est important dans le Serious Game Santé. Voilà. Je ne sais pas si, au final, j'ai été plus rapide ou plus long que prévu, mais je n'ai pas trop vu. Merci.
Merci. particulièrement difficile. C'est vrai que l'an dernier, on avait eu effectivement aussi une autre présentation. J'ai plus en tête le... Si, bien sûr, Voracifi. Dans le même contexte, et donc on voit bien que la rééducation, finalement, semble être un objectif, entre guillemets, d'utilité des... Enfin, un secteur d'utilité des jeux sérieux. Est-ce que vous avez des questions à poser à Antoine Seyès? Je sais qu'il est tard, mais on n'est pas trop mauvais dans les temps, quelque part. Vous n'avez pas de questions? Il a fait tout ce chemin pour rien. Alors, non, non, c'est pas vrai. Il a son stade à l'entrée. Vous pourrez lui poser. Vous pourrez essayer aussi le jeu, hein, et voir si finalement vos réflexes quelque part sont peut-être bons. Vous n'avez pas de questions? Eh bien, écoutez, je vous remercie encore. Je remercie tous les orateurs d'aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain matin